Nous voudrions seulement continuer dans un pressant appel à nos chers jeunes frères. L'exhortation qu'ils ont pu entendre hier après-midi. Nous ne pensons pas résumer ce beau chapitre 12 où nous voyons les dons de l'Esprit dispensés du Seigneur lui-même étant monté en haut. Il a emmené la captivité et il a donné, après les avoir reçus, des dons dans l'homme. Le Saint-Esprit est maintenant dans l'Assemblée, comme nous avons eu le privilège de le considérer longuement. Et il est là de la part du Seigneur pour que s'exerce, selon l'exercice fidèle, confiant et humble des dons qu'il dispense, il est là dans l'Assemblée pour l'édification de l'Assemblée, comme aussi pour la paix des âmes. Ceux qui achèvent la course peuvent vous dire, avec une profonde reconnaissance au Seigneur, qu'ils trouvent joie et encouragement à voir vivre dans le chemin et avoir déjà engagé dans quelques services de la part du Seigneur ceux qui les suivent. N'avons-nous pas tous qui achevons la carrière en autre temps reçu des encouragements précieux de la part de ceux qui avaient alors le même souci qui est présentement nôtre? Et c'est pourquoi nous désirons, en toute affection, pour la gloire du Seigneur, nous désirons nous tourner vers ceux qui nous suivent, et particulièrement vers ces jeunes à qui le Seigneur demande de répondre, quand lui dit « Qui enverrai-je ?» de répondre « Me voici, envoie-moi ». Pour quelque service que ce soit, il est nécessaire que la paix du Seigneur soit reçue dans le cœur. Mais, on y a insisté, les dons de l'Esprit se désirent. Les dons de l'Esprit se souhaitent. On nous a cité le cas du raton, de l'un des frères qui, au début de ce siècle, le siècle et la fin du siècle dernier, ont été en si grande bénédiction dans son pays et dans nos pays. Rodolphe Rocos. Nous désirons simplement placer sur la conscience et le cœur de ces jeunes chrétiens objet de nos prières, objet de nos affections, sur qui repose dans une certaine mesure une responsabilité qu'il faut déjà prendre sur soi avec le sentiment que le Seigneur appelle et que le don est accordé pour que le service qui est confié soit réalisé à sa gloire. Un don se désire, il ne doit pas se refuser. Et on peut refuser un don par indifférence, négligence, fausse humilité, toute chose que la parole de Dieu n'approuve pas. Nous rappelons des réticences de Jérémie, des réticences de Moïse, quand ils étaient appelés à une mission lourde, pénible, douloureuse. Mais nous savons aussi, comme Simplement, la grâce de Dieu les a encouragés et les a formés. Il faut ajouter qu'un don se prépare. Si tout vient d'en haut, c'est sûr. Et un don se prépare. Il ne faudrait pas penser que, mu par une impulsion subite, l'édification de l'Assemblée puisse être recherchée dans une préparation. Vous permettra-t-on de rappeler cette belle et simple réponse donnée voici un siècle à l'un des frères de ce cher plateau, qu'on appelait le pape Aveille, dont la plus grande difficulté quand il se levait pour annoncer la parole, c'était de la lire. Il trébuchait à chaque ligne et les pataquès ne manquaient pas. Mais quand il avait achevé sa lecture, on sentait qu'il y avait au-dedans de lui une source ouverte que l'eau pure s'échappait à flots pressés à l'étonnement des gens instruits qui l'entouraient, l'un d'eux, un ecclésiastique, animé sans doute de bonnes intentions, s'approcha de lui et lui dit, Monsieur Veille, est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question bien sûr, monsieur le pasteur? Dites-moi, est-ce que vous préparez vos serments? Ah, lui dit-il, si je vous disais que je ne les prépare pas, ce ne serait pas une chose exacte, mais si je vous disais que je les prépare, ce ne serait pas vrai non plus. Réponse un peu normande, à laquelle il donna tout de suite l'explication en disant à ce digne homme, que penseriez-vous d'un pharmacien qui vous irait porter une ordonnance et qui, sans même l'avoir lu ou à peine, irait vers ses rayons, prendrait la fiole et dirait, voilà, c'est prêt. Vous diriez, mais il n'a même pas pris la peine de regarder ce que le docteur a ordonné. Mais que penseriez-vous du même pharmacien si, quand l'ordonnance arrive, il était obligé de confesser qu'il n'a rien dans ses bocaux pour l'exécuter? Vous diriez, mais il manque à ses devoirs. Eh bien, monsieur le pasteur, je suis comme le pharmacien. Je ne peux pas avoir d'ordonnance faite d'avance, mais il est nécessaire que lorsque l'ordonnance arrive, et c'est l'appel du Seigneur à édifier, à encourager, à exhorter, à évangéliser, il faut que j'ai quelque chose dans mes bocaux. Chers jeunes gens, chers jeunes frères, vous êtes à l'âge où on remplit ses bocaux. Si vous ne le faites pas, eh bien vous serez dans la situation que nous avons connue maintes fois, et cela nous humilie, ou il y avait quelque chose à présenter, et même nous avons entendu un jour un frère expérimenté s'adressant à une nombreuse assemblée, contraint de lire parce que le silence était pesant, de lire le passage du livre des Actes. Frère, si vous avez quelque chose à dire au peuple, parlez. N'avions rien dans les bocaux. Expérience douloureuse. Vous êtes à l'âge où la mémoire n'est pas encore surchargée, où le cœur ne s'est pas encore laissé prendre par toutes sortes d'obligations humaines, et nous vous disons, dans la certitude que nous ne nous trompons pas, et avec le désir que Dieu vous accorde cette énergie, cette foi nécessaire pour trouver le temps, un temps qui est si rare maintenant, pour trouver le temps de remplir vos bocaux, d'avoir affaire au Seigneur, par sa parole. Écouter dans l'Assemblée est un privilège, mais nourrir son âme de ce qu'on sait être la source de toute bénédiction, de toute force, de toute joie, dans un contact personnel avec la parole de Dieu, c'est plus qu'un devoir, c'est une obligation. Sans allonger, je voudrais quand même, et non, sans émotion, rappeler Stéphane Vin, il y a une quarantaine d'années, un cher jeune frère, que ni son instruction, ni son éducation ne paraissait avoir qualifié pour exercer un service utile dans une assemblée où, brusquement, le besoin s'était fait sentir de se mettre à la brèche. Il avait des charges de famille, il avait des obligations humaines, c'était le temps où la semaine de 40 heures n'était pas encore en grand honneur. Il mit pendant des mois et même des années son réveil en avance d'une heure et il remplit ses bocaux. Plusieurs ici, une âme dans leur cœur, exemple précieux d'une décision de service quand l'appel du Seigneur étant là, qui enverrait, il avait pu répondre, me voici, envoie-moi. Chers jeunes amis, mettez vos cœurs à ces choses. L'étude de la parole de Dieu est une chose délicieuse. Au fur et à mesure qu'on s'en nourrit, l'appétit vient en mangeant. Nous disposons dans nos bibliothèques, elles sont à la disposition de quiconque, nous disposons pour que nous les procurions et en usions à toute occasion. Nous disposons de brochures dont le prix est si grand que d'autres chrétiens mis en contact avec les exposés de la vérité, la parole des coupés droits, n'hésitent pas à dire, mais les frères ignorent toutes les grâces que le Saint-Esprit leur a accordé. Ayez à cœur de vous procurer ces brochures, demandez aux frères plus âgés ce qui peut être adapté à leur compréhension. Possédez-les et lisez-les. La plupart se mettent dans la poche et il est précieux de pouvoir profiter de loisirs de moments de repos pour retremper son âme au contact de l'écriture et pour remplir ses bocaux. Cela peut être fait en toute humilité, mais c'est le chemin d'une bénédiction personnelle, d'une bénédiction pour la famille, d'une bénédiction pour l'assemblée. Nous vous délivrons cet appel avec tout l'amour que nous pouvons y mettre, tout le souhait du bien, tout le désir de la gloire du Seigneur dans l'assemblée. Je lui-même, il donne que vous lui donniez dans vos cœurs une réponse à ce qui est l'invite du Seigneur lui-même.
Que de tels désirs et de tels efforts dans l'humilité et la dépendance de Dieu doivent avoir un motif, un secret, le chemin que nous sommes tous conviés à suivre, auxquels les jeunes ont été rendus particulièrement attentifs. On a parlé des jeunes frères, mais il s'agit aussi des sœurs, qui ont leur don, elles aussi, même si elles n'ont pas à les exercer en public. Il y a les dons de grâce et tout concourt au bien de excellents que les plus beaux services, le chemin plus excellent que les dons les plus grands. Plus exactement, le chemin qui permet de les accomplir, qui permet de répondre à l'appel que le Seigneur adresse à chacun des siens. Faire les choses pour les autres, les faire pour lui, car c'est tout ça pour le chrétien, et les faire, par conséquent, non pas pour sa propre satisfaction, non pas selon l'égoïsme naturel à nos cœurs, mais par amour. Et le chemin le plus excellent, c'est évidemment ce chemin de l'amour qui est le secret de toute activité, ici il s'agit particulièrement dans l'Assemblée, de l'Assemblée, mais de toute activité chrétienne. Et nous avons, avec le chapitre 13, nous abordons maintenant le chapitre qui nous confond toujours, parce que il nous fait toujours ressentir combien peu nous manifestons cet amour que pourtant nous sommes appelés, nous chrétiens, nous croyants, nous enfants de Dieu, à manifester parce qu'il nous a été donné. Ce chapitre 1, c'est le chapitre de, comment faut-il dire, de la préexcellence de l'amour, la primauté excellente de l'amour sur toute chose. Nous avons comme le secret de cette activité chrétienne, mais nous l'avons dans ce qu'il a d'inconnaissable, de secret. Non, ce ne sont pas les choses extérieures qui comptent. C'est le mouvement de l'âme, c'est ce qu'il y a dans l'âme. Et c'est ce qui fait la supériorité de l'amour, du véritable amour, du tel amour dont il soit question ici, le mot. Le recours des quantités de choses dans le langage humain. Mais l'amour dont nous parlons ici est quelque chose d'inconnu du cœur naturel, d'inconnu du monde éloigné de Dieu. Nous avons dans sa supériorité imminente sur même les tons les plus remarquables, soit ceux qui attirent l'attention, comme le ton des langues, soit comme les dons les plus grands, parce que nécessaires à l'édification, comme la prophétie, comme la connaissance, les dons les plus efficaces, les plus remarquables par leur le don de la foi qui a transporté les montagnes. Et si l'amour n'est pas là, je suis comme un son, non pas même comme une voix, je ne suis rien. Et même avec la négation la plus grande, la plus haute des vertus humaines, pourrait-on dire, quelqu'un se sacrifiant, non seulement distribuant ses aliments, mais vivant son corps afin d'être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, je la cause. Cela ne profite de rien. Inutilité totale pour soi et pour les autres, de
il y a quelque chose qui manque à tout cela. Il manque cette flamme secrète, il manque ce moteur secret auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et puis, on peut dire plus encore, voici, avec les versets qui suivent, du verset 4 jusqu'au verset 7, avec cette énumération de ces 14 caractères de l'amour, des qualités
de l'amour.
Et nous avons un tableau de ce que l'amour peut montrer au milieu et en présence du mal qui est partout dans ce monde et qui est dans tous les cœurs, le mal qui est en moi et qui est attaché à ma vieille nature. Et l'on voit l'amour supérieur au mal. L'amour imminent par celui-là, pouvant rencontrer tous les obstacles, non pas aveugle, et non pas indifférent, non pas insensible au mal, mais pouvant aller de l'avant en étant au-dessus, supérieur au mal, supérieur à moi-même. Et c'est là quelque chose et qu'on ne peut absolument pas rencontrer dans tout ce qui appartient au domaine naturel humain. Ce n'est pas dans le cœur humain. Et ce n'est pas dans le monde. Il y a là un secret qui est celui de l'amour qui est inconnu ici-bas, en dehors de celui que Dieu lui-même y a fait éclater et que nous voyons en celui qui a été ici-bas l'homme parfait et entièrement consacré à la volonté de son Père, et cela par amour, et envers des pécheurs tels que nous par amour. C'est une chose merveilleuse. Et puis, dans la fin du chapitre, nous retrouvons cette supériorité de incomparable de l'amour. Bien sûr, on peut dire tout ce qui est temporaire, l'amour ne périt jamais. Tout ce qui est partiel, connaissons en partie, tout ce qui est temporaire, tout ce qui, mais aussi tout ce qui est encore incomplet, tout ce qui est inachevé, tout ce qui n'est pas la perfection. Et l'amour est supérieur parce que c'est la perfection même. Supérieur au don les plus grands. Alors, ils reviennent là, n'est-ce pas, pour la connaissance, la prophétie. Et supérieur même aux deux autres grandes caractéristiques de la vie chrétienne, que sont la foi et l'espérance. L'amour domine tout cela. Mais, n'est-ce pas, devant ce que cela a de mystérieux, de secret, d'étranger à toutes les pensées humaines, à tout ce qui est naturel à nos cœurs. Nous sommes contraints de dire, mais cela est divin. Effectivement, non seulement l'amour est divin, mais l'amour, c'est Dieu lui-même, amour pur, insondable, être du Dieu suprême, chantons-nous quelquefois. Et c'est pourquoi on ne peut pas définir l'amour, c'est pas possible.
Et c'est quand nous puisons à la source divine elle-même, autrement dit, dans la communion de Dieu lui-même, et c'est là seulement que nous trouvons, que nous connaissons, que nous éprouvons, et que nous sommes rendus capables de manifester l'amour dans cette alliance et évidente avec la vérité. Dieu est lumière, comme il est amour. Mais cela n'est-il pas merveilleux, chers amis, que Dieu nous ait fait connaître l'amour en se faisant connaître lui-même. Quelqu'un disait, nous commençons à comprendre l'amour pour nous, l'amour en ce qui nous concerne, quand nous connaissons que Dieu nous a aimés. Jusque-là, on peut bien parler d'amour et appliquer ce terme à des quantités de relations humaines et beaucoup sont hautement honorables. Ne méprisons pas les relations naturelles en les replaçant dans le cadre de leur établissement par Dieu, mais qu'est-ce à côté de ce qui est Dieu lui-même révélant ce qu'il est dans le don de son Fils. C'est ainsi que nous avons connu l'amour, non en ce que nous en ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima. Et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Et puis, pour le croyant, pour celui qui naît nouveau, devenu un enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit, et participant maintenant de cette vie nouvelle avec des désirs, des mobiles, des sentiments nouveaux, il nous est dit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une chose étrangère à la vieille nature, mais c'est le propre de la nature nouvelle. Et c'est cela qui, dans la vie individuelle et dans la vie de l'Assemblée, puisque tout ceci est en rapport étroit avec l'Assemblée et l'exercice des dons, c'est-à-dire de l'activité de l'Esprit dans l'Assemblée comme telle, c'est cet amour auquel nous sommes appelés à considérer ici d'une manière toute particulière, et Dieu veuille bénir pour nous ce contact avec de tels passages, avec un tel chapitre, le chemin excellent, le chemin plus excellent que les autres. Verset 19. Nous l'aimons, et on peut dire tout aussi bien nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Jusque-là, il n'était pas question de trouver dans des hommes l'amour. L'Ancien Testament n'en parle guère. Parle de la grâce, de la bonté. Il y a un amour qui est réclamé par la loi. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour même ne va pas aussi loin que ce que nous avons ici, sans doute. Mais même l'amour ainsi demandé par la loi n'a jamais pu être produit par la loi. La loi a toujours mis en évidence que nous étions incapables de cet amour, incapables d'aimer Dieu, incapables d'aimer dans nos prochains, et qu'il fallait autre chose
qu'un autre nature.
Et maintenant, Christ étant venu, son œuvre étant accomplie, le Saint-Esprit descendu du ciel, comme nous l'avons vu, le croyant amené comme l'enfant de Dieu et disant Abba Père, mis en présence de l'immensité de l'amour de Dieu, ayant connu sa propre misère, son péché, sa perdition, l'incapacité pour lui de répondre à la loi d'amour de Dieu, mais voyant Dieu s'étant occupé d'être tel que moi, tel que nous. Alors, c'est ainsi que l'amour, par la puissance de l'esprit mis dans nos cœurs, prend sa réalité. L'amour non seulement qui est en Dieu, mais qui est Dieu lui-même, révélé par la personne de son Fils bien-aimé, et révélé comme tel par le Saint-Esprit lui-même. Ce sont de grandes choses, des choses merveilleuses, chers amis, mais elles sont placées devant nous pour que nous y en croyions, pour que nous en vivions.
Et il est assez normal que des frères ou sœurs opérations de l'esprit dans les cœurs des hommes. Sans l'expiation, Dieu ne pouvait pas faire d'un homme un chrétien. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que ses droits n'auraient pas été satisfaits. Il y avait des droits absolus, imprescriptibles. Vous savez qu'il fut vengé de l'outrage qui était fourni le péché. C'est fait. Et maintenant, il ouvre le chemin plus excellent de l'amour. C'est l'amour de Dieu et exclusivement de Dieu. Alors, nous en faisons l'expérience pauvrement, mais nous l'avons faite, et nous pouvons la faire tous les jours, que sans cet amour de Dieu agissant dans nos cœurs, il nous est impossible de réaliser cela, même partiellement. Cet amour est versé par l'Esprit Saint dans nos cœurs continuellement. Et sans anticiper sur la suite de la lecture, nous pouvons bien déjà signaler qu'il est impossible de réaliser ces caractères dans une vie, faire des progrès en tout cas, sans faire des progrès dans la communion avec le Père et dans la communion avec son Fils Jésus-Christ par sa vie. Le grand secret de cela, de ce qui nous est donné là, qui autrement est quelque chose d'incompréhensible pour nous, c'est de vivre avec le Seigneur, avec le Père. Alors l'amour divin remplit, même évidemment jamais parfaitement, mais il remplit davantage le cœur du croyant, et le croyant voit clair, et il sait ce qu'il faut faire, et il le fait. Et nombre, plusieurs de ces caractères sont entièrement négatifs. D'ailleurs, dans la loi, il y avait des choses qu'il fallait faire et d'autres qu'il ne fallait pas faire. Un homme très connu, célèbre même, je peux dire, du siècle, probablement un chrétien, mais qui avait fréquenté d'authentiques chrétiens très dévoués, éminents à tous égards, a traduit ça, résumé ces passages-là, pour plusieurs vers, et dont l'un est celui-ci, l'amour sur tous les dons l'emporte avec justice. L'amour est plus grand que tous les dons. Et en effet, l'amour c'est Dieu est amour, nous dirons, pour difficilement dire que l'amour est Dieu, parce que Dieu est amour et lumière, mais on ne peut pas jouir de l'amour de Dieu sans jouir de Dieu lui-même. C'est en jouissant de Dieu que nous avons son amour. En étant remplis de l'amour de Dieu que nous aimons, et cela est supérieur à tout autre, les dons ont pour objet de faire avancer les âmes dans cette réalisation-là qui est le but de toute édification. Au-delà de la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Dans tous les services, il n'y a rien qui dépasse là. Et tous les services ont pour objet soit d'amener une âme inconvertie à la connaissance de Dieu, soit de ramener quelqu'un qui est dans la vie spirituelle abaissée, de le ramener dans la communion avec le Père. Ce que nous avons donc à rechercher en tout cela, c'est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Nous saurons aimer. Et nous serons gardés de substituer à cet amour de Dieu, l'amour divin, lui substituer l'amour des diverses relations. Et cette substitution-là est à l'origine de toutes sortes de misères dans les affranchis.
Quand on voit le passage que nous avons dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin de vous en expliquer, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Toujours la même chose, la seule chose, Dieu est enseigné par le Dieu, et voilà les
maintenant vrai. Je rappellerai dans les Colossiens ce qui nous est dit sur le statut de croyant. D'ailleurs, c'est à faire. Après avoir été exhorté à se revêtir comme des difficultés, pas de bien-aimer dans le travail. faut qu'on en monte l'amour de soi. Et là, cette chose vraiment importante, le propre de l'amour tel que nous avons ici, de l'amour de Dieu, d'être identifié pour celui qui en est l'objet.
Thank you.
l'image suivante. Si on veut savoir ici dans un arbre, on commence par engraisser le terrain. Et soyez là. On pense pas tout de suite aux fruits. Les fruits sont l'effet d'un travail préparatoire. Et de même, l'amour, ça nous le poursuivra pas. En lui-même, nous l'obtenons en recherchant la présence du Seigneur. C'est là la source, et cette source peut nous remplir au point de faire déborder nos cœurs. Ce que tout de même, nous avons bien un peu connu les uns ou les autres. Alors, nous ne sommes pas des chrétiens. Les preuves du fait que l'on est chrétien, elles sont très précises à faire. Inévitablement, cet état intérieur se manifeste au dehors. Mais des sentiments comme l'oubli de soi, l'absence d'égoïsme, nous touchons ces questions, il le faut bien, et nous ne sentons tous repris par là. L'amour du monde, la vanité, tout cela, l'amour divin, le met de côté. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez vous appliquer à une phrase modeste à paraître ceci et cela. Quand vous aurez fait ainsi preuve de dévouement vis-à-vis des autres, vous aurez une satisfaction de vous-même qui sera un péché. Si l'amour de Dieu remplit notre cœur, nous sommes gardés. Et l'apôtre ne réalisait à un tel degré que même étant moins aimé des Corinthiens, il les aimait encore davantage. Voilà. Et l'amour de Dieu ne change jamais de caractère. Jamais. De sorte que quand nos manifestations sont mélangées, nous pouvons être sûrs qu'il y a deux choses qui alimentent notre cœur. C'est connaître. Il venait de la retraite cachée de l'amour. Et il était dans ce monde l'amour actif, l'amour présent, l'amour de Dieu se dépensant en bonté et grâce. Et puis, en parallèle, ce qui est la merveille de l'état chrétien, comme le même apôtre, dans ce chapitre 4 de sa première épître, en une sorte de symétrie, rappelant ce qu'il a déjà écrit, personne ne dit jamais Dieu. Et soulignant ce fait que maintenant Jésus n'est plus ici, pas, on ne le voit plus marcher dans ce monde. L'amour présent, l'amour actif, l'amour de Dieu qui cherche les pécheurs, on ne le voit plus dans ce monde. Mais il ajoute, personne ne vit jamais Dieu si nous aimons l'un l'autre. Dieu demeure en nous et son amour est manifesté en nous. Pardon, consommé, merci. Et consommé en nous. Il a son expression en pratique. L'amour de Dieu, qu'on ne peut plus voir ni goûter que par la foi, en contemplant là-haut, celui qui en a été l'expression parfaite, si nous aimons l'un l'autre. On en garde à ce singulier. Nous aimer l'un l'autre, sans aucune exception, sans céder à cette sorte d'attirance que nous éprouvons pour quelques frères, pour quelques sœurs, mais l'amour pour tous. L'amour égal, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que nous aurons un égal soin les uns des autres. Alors, celui qu'on ne peut plus voir autrement que par la foi, en élevant les yeux en haut, conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. attention, chers frères et sœurs, que les paroles inconsidérées, que le jugement téméraire, que l'expression choisie de ce fond louche, mauvais de l'amour propre, que l'expression lesquelles, sans y porter peut-être grande attention, nous avons en pratique renié l'amour dans ses effets, dans son activité présente, oubliant ce que dit notre Seigneur, associe le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. C'est le principe général. Jean descend au cas particulier et nous dit si nous nous aimons l'un l'autre. Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Que Dieu nous en fasse la grâce. Faisons-nous sonder par cette parole divine. Nous savons bien qu'il y a au fond et très fond de l'âme cet amour de nous-mêmes. Quelqu'un a dit que c'est l'amour propre qui meurt le dernier dans le chrétien. Cet égoïsme qui fait que nous ramenons tout à nous-mêmes et que pensée douloureuse à constater. Souvent, le fond même de nos expressions de louange sont pour le Christ, qui nous a aimés, nous a sauvés, nous a tirés de notre misère. C'est notre sauveur, bénissons-le. C'est vrai, et c'est bien précieux. Mais si la note du culte ne se lève pas plus haut, ah, prenons garde, que nous se soyons de nous, que nous soyons occupés, mais que je le dis, expression d'amour éternel, insondable. La réalisation de cet amour connaît bien des difficultés. Ayant tout pour origine, en effet, cet égoïsme. L'histoire du monde n'est qu'un conte, l'histoire d'un conflit d'égoïsme, d'individus, de groupes humains, de peuples, de nations. C'est terrible à dire, mais c'est absolument la vérité, comme chacun peut le constater en fait. Ce même égoïsme est sûrement à la source des difficultés dans les assemblées. L'amour de Dieu n'ayant plus sa puissance, sa place suffisamment dans le cœur des frères et des sœurs, d'autres éléments interviennent. L'égoïsme peut être individuel, personnel, il peut être collectif. Égoïsme du clan. Parti, c'est un clan. C'est un moi collectif. Et ces considérations jouent dans la vie d'une assemblée et en particulier, c'est souvent par le temps, pour les décisions, des décisions à prendre. La fidélité conduirait quelqu'un à faire passer le Seigneur avant quelqu'un qui lui est fait. C'est là qu'on voit toujours. Est-ce que ce n'est pas une chose solennelle que de constater, il ne s'agit pas de mourir, n'est-ce pas, que de constater que ce terrible élément que constitue l'égoïsme, c'est de parmi tout ce qui doit représenter l'assemblée de Dieu elle-même,
les plus avancés en âge et en expérience, ils disent, le cas échéant en spiritualité, sont là beaucoup les plus responsables à cet égard. L'amour nous connaît, vient de Dieu, il est de Dieu, et il nous connaît. Et il nous connaît que la soumission à la pensée du Seigneur. Et le vrai amour consiste plus d'une fois, comme humainement dans une famille, l'amour d'un père ne consiste pas à caresser son fils dans toutes les situations et toutes les manifestations de la vie de ce dernier. Souvent il le corrige parce qu'il aime son fils. Et c'est l'amour qui le pousse à le corriger ou soutenir à notre papa dans une autre condition à le caresser. De même, à bien plus forte raison, le Seigneur est contre nous lorsque nous avons l'apparence de l'amour sans que ce soit la vérité, sans que nos femmes soient en bon état. Et nous pourrions rendre bien des fois un immense service, même à des frères, à des sœurs ou dans des cas difficiles, en montrant l'amour vrai comme il doit se montrer au lieu de faire des il n'y a pas de condition dans le secteur. C'est la lumière et ou les ténèbres, ce n'est pas l'un et l'autre. C'est la lumière et les ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a en dit aucune ténèbre. Nous sommes lumière dans le secteur. Il n'est pas dit que nous sommes amour parce que l'amour est souverain. C'est Dieu, c'est souverain. Il est toujours là. Mais nous sommes lumière dans le secteur. Nous sommes rendus plus responsables dans la lecture de ces chapitres, quelques faits que nous sentons que nous sommes, sommes plus responsables, chacun de nous, dans l'assemblée à laquelle il se rattache. Nous serons bénis et heureux dans la mesure où nous mettrons le Seigneur à la première place. Nous appliquerons à lui laisser sa place. À la laisser prendre par cette place. Par aucune circonstance. Par aucune question. Nous ne réaliserons pas toujours, mais si nous sommes les yeux présents, sans là, le Seigneur nous bénira. Et il ne peut pas me faire de dire. Voilà pourquoi, comme on disait tout à l'heure, les réunions sont ce qu'elles sont. Et tout le monde est engagé dans ce sens-là. Un commandement. La France exprime la nécessité de notre part d'une dépendance constante. Nous ne pouvons pas venir sans être des membres. Il ne faut pas jouir la motive, l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Fils, sans dépendre du Père et du Fils, sans être prêt de parler. C'est une chose à dire, et aux jeunes chrétiens, et aux autres, à nous tous, à nous dire les uns aux autres. Ces enseignements sont vitaux pour la vie des apôtres. Et encore une fois, qu'on soit contribué à mettre le Seigneur à sa place. La première place, nous disons bien la première place. Et de le dire, appliquons-nous à le réaliser. C'est trop facile à dire. Et le réaliser exige des exercices. Parce qu'il existe un travail intérieur et la mise de côté de soi-même, dans soi-même, et dans les relations avec les frères, et dans, quand il s'agit de la vie de l'Assemblée, dans les décisions de France, dont on voit qui le fait. Le bien de son Assemblée, il n'appartient qu'à personne d'autre. Comment peut-on être surpris qu'il y ait des fautes de tout ça lorsqu'on tient le Seigneur au vent ou en tient? Dans ce remarquable chapitre de 1 Jean 4, après nous avoir présenté l'amour comme un principe vital, nous avons la vie de Dieu, sans elle nous ne pourrions pas aimer. Comme un principe moral, puisque Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. Une obligation qui s'impose au cœur, pour que comme lui nous a aimés, ainsi nous puissions nous aimer l'un l'autre. Un principe d'assurance. Nous avons tout fait à l'égard du jour de jugement. Nous sommes déjà comme il est. Oui, ainsi nous sommes nous aussi dans ce monde, et l'amour parfait chasse la crainte. Dans le dernier paragraphe, Dieu, connaissant nos cœurs, si subtilement profilant en conception, en abandon de la vérité en détail, bien que peut-être nous prétendions la saisir dans l'ensemble, Dieu termine, plutôt ce passage, clôt ce sujet. Sur un principe obéissant, nous avons ce commandement de sa part, celui de Dieu. Nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors le cœur est là, plein de sa faiblesse, et oh, quel commandement pénible. Mais par ceci, dit au chapitre 5, verset 2, l'apôtre, parce que si nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et nous gardons ses commandements, car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Le monde et les principes du monde sont là dans nos cœurs, pour nous représenter comme vraiment pénible à éviter ce qui est un commandement de sa part. Mais ces commandements ne sont pas pénibles, car ce qui est né de Dieu, la vie de Dieu qui est en nous, est victorieux du monde. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. La foi que Dieu nous a donnée, et qui a saisi son objet, et qui est rempli de lui, de ses grâces et de son amour. Bien, c'est important, actuellement, étant donné la puissance peu ordinaire, le danger peu ordinaire que la puissance du monde fait courir aux chrétiens, à Jésus. Nous avons une ressource donc qui permet d'être victorieux du monde. L'amour de Dieu dans le cœur rend un homme très bien content, heureux. Et il n'y a pas Et cette personne qui doit être redevante pour les personnes. Ce témoignage se ferait dans le monde, n'est-ce pas? Bien plus qu'en parole, en discours et en prédication et en déplacement de toutes sortes. Ce témoignage se ferait à la gloire de Dieu, à la gloire de Christ, de son œuvre à la croix, car ça avait une conséquence. Si nous montrions que nous sommes des gens heureux, et cela se montre d'une façon extrêmement simple, c'est un état intérieur qui ne peut pas ne pas se manifester dans les mille occasions de circonstances de la vie journalière des gens heureux. Est-ce que cela nous satisfait de nous rappeler les paroles du Seigneur telles que celles-là? Si quelqu'un, mère, père, femme, enfant, plus loin, il est indigne de moi, est-ce que nous avons rayé cela de nos pensées et de nos méditations? C'est pourtant écrit pour toujours. Impossible encore, la réalité est impossible. Ah, sans l'amour vivant, agissant dans le cœur. N'avons-nous pas l'occasion de montrer cela? C'est dans bien des questions pour avoir l'occasion de montrer. Que le Seigneur nous est plus précieux même que nos liens naturels, ou alors moins ça. Et l'Assemblée, comment est-elle alors la colonne de soutien de la vérité? De quelle vérité est-elle la colonne de soutien? Car il ne s'agit pas de vérité doctrinale dans la sens là, la vérité tout entière, morale, doctrinale, doctrinale. Les chrétiens devraient être dans ce monde le cortège de autant pendant que l'Église est dans sa position de souffrance, le cortège est témoin de ce qu'a été Christ ici-bas. Voilà l'idéal. Donc, ce mot n'est pas bien placé. Voilà l'idéal que le Seigneur place devant tout le monde, pas seulement dans les hommes.
La loi commandée, s'il vous plaît. Dieu ne donnait pas en donnant la loi, le moyen d'aimer. Les commandements que nous avons maintenant de la part de Dieu, les commandements de Dieu, dans l'expression, de la part du Seigneur, les commandements du Seigneur à ses disciples, sont bien plus difficiles à observer que les commandements de la loi. Et s'il s'agit de l'amour, comme il y a déjà été fait allusion, l'amour que nous sommes appelés à pratiquer, à manifester, à éprouver, va bien au-delà de ce que la loi demandait. La loi ne demandait pas qu'on donnât sa vie pour ses frères. L'amour chrétien demande. Mais la différence capitale, c'est que Dieu nous donne les moyens de répondre à ses commandements. Et pour la vie nouvelle, les commandements ne sont pas visibles. Nous avons un modèle en fait. C'est très beau d'avoir un modèle. Mais cela ne donne pas suffisamment. Pas toujours à celui même qui l'étudierait très soigneusement de la capacité de lui ressembler. Mais le chrétien a cette capacité. Il a le moyen. Et il est extrêmement simple. Il a été rappelé tout à l'heure. C'est de vivre avec le Seigneur. C'est de vivre avec ce modèle. C'est de le laisser vivre avec nous et en nous. Nous demeurons en lui, lui demeurant en nous. Qu'est-ce qui s'oppose à cela? Ce moi, cette vieille nature, cet égoïsme dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et à juste titre. Et c'est en lui, et c'est avec lui, que nous voyons comment cet égoïsme disparaît. Tous les caractères que nous avons ici
encore une fois, ont été réalisés en lui. Et quand nous les lisons, et quand nous lisons les évangiles, et que nous voyons comment sur cette terre, il y a eu un acte, dont l'amour marquait tous les actes, non pas seulement toutes les paroles, mais si quelqu'un a aimé en action et en vérité, c'est bien lui. Et alors nous voyons user de longanimité, comme il était patient, même envers ceux qui exerçaient plus sa patience, ses disciples par exemple, comme il était plein de bonté, une bonté humble, mais une bonté continuelle. Et chacun des caractères serait à prendre, n'est-ce pas, en y rapportant telle circonstance de la vie du Seigneur, bah. Mais relevons surtout ce que nous avons dit quant à l'attitude et les actions de Jésus vis-à-vis de l'opposition qu'il rencontrait, de la haine, des outrages et d'autre part de tous les complots obscurs qui se tramaient contre lui. Eh bien, il a réalisé toujours que non seulement il n'était pas en Dieu, non seulement il ne se vantait pas, non seulement il ne semblait pas d'orgueil, mais il n'a jamais agi avec inconvenance. Toujours exactement suivant les situations, les cas, mais ne brusquant jamais inutilement l'âme, n'ayant jamais une parole, même en face des lits, pas propre, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, propre à soulever de l'irritation justifiée chez ceux auxquels il parlait. Et puis, ne cherchant pas son propre intérêt, ne s'irritant pas. Il s'est mis en colère. Il avait dit, il a regardé à l'entour avec colère, mais sans cette irritation qui est le fait de l'orgueil qui se dresse en présence d'un obstacle. Il était doux, débonnaire, humble de cœur, n'imputant pas le mal. Et pas seulement ne soupçonnant pas le mal, mais pas fermer les yeux sur ce qui apparaît comme le mal. Mais il ne mettait pas en compte. Et l'amour ne met pas en compte, ne porte pas au compte de celui qui nous fait du mal. Le mal dont on pourrait chercher. Et là, avec d'autres peut-être, mais le sens précis, l'expression que nous avons là, mais le Seigneur, et il en était ainsi. Et chez nous, qu'en est-il? Et ainsi, pour le support, ainsi pour espérer, ainsi pour tout endurer. Ce serait bon que nous arrêtions peut-être, si quelques frères avaient quelques pensées données à cet égard, sur ces traits pratiques de l'amour, et tels que nous voyons dans le parfait modèle. Mais retenons surtout que c'est seulement en étant près de lui que nous lui ressemblerons, que nous reflèterons.
La plupart d'entre nous, un cher frère, et qui était originaire d'un pays où les sentiments sont rudes et leur expression violente. C'est le caractère de cette région. Par la grâce de Dieu, il avait surmonté ses dispositions nationales, si j'ose dire. Et il avait aussi, dans cette méditation de ce chapitre, de dire, voyez-vous mes amis, l'amour, ça rend folle. Ne pas agir avec inconvenance, c'est la mise en action de ce respect des autres qui implique la politesse. Ne pas agir avec inconvenance, c'est ne pas répondre à une offense par une autre offense, d'accumuler les raisons qu'on pourrait paraître avoir, de porter un jugement sévère. Ne pas agir avec inconvenance. Respecter le Seigneur dans les siens. Me souvenir toujours qu'un frère a la vie du Christ en lui, même si nous pourrions, avec quelques légitimités, mais il y a quand même ceci qui ne va pas. Ne pas agir avec inconvenance. Il supporte tout, il espère tout, il endure tout. Il n'est pas soupçonné du mal, il ne pense pas le mal. Il y a de ces natures privilégiées et qui sont épargnées de cette disposition pourtant généralement neutre de soupçonner. Oui, il y a quand même, pourquoi cette parole, pourquoi cette attitude? L'amour ne supporte tout, croit tout, endure tout, espère tout, endure tout, espère tout, endure tout. Alors, cette affirmation de la souveraineté de l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour se réjouit avec la vérité. Il arrive parfois, quand on présente une exhortation à l'amour, que l'on dise « oui, mais il y a la vérité ». Et qu'on la présente ainsi, comme une restriction à l'amour. Cela a été pourtant dit à plusieurs reprises, mais déjà aujourd'hui, amour et vérité sont inséparables. Mais non seulement ça, ce n'est pas seulement l'amour qui s'accorde avec la vérité, mais l'amour se réjouit avec la vérité. Et notre pensée, quand l'amour doit s'exercer par le moyen de la sévérité ou de la répréhension, s'il est vraiment l'amour, il est ressenti ainsi par celui qui est repris ou qui est écorté. Jean aimait s'appeler le disciple que Jésus aimait. Il a été repris par le Seigneur. Mais son père, là, de répréhension les plus sévères que l'on trouve dans l'Évangile. Vous ne savez pas. égard et que l'on se préoccupe peu d'un frère ou d'une sœur qui est en danger, on préfère garder sa popularité pour ne blesser personne, s'occuper d'une situation délicate. Cela risque toujours d'amener des réactions pas toujours heureuses. Ces considérations ne sont pas la vôtre. Mais s'en occuper d'une façon dure n'est pas non plus la vôtre. En particulier lorsque l'Assemblée est tenue de doter un méchant du milieu de son cœur, si chacun des frères et sœurs ne le fait pas en gardant l'amour dans son cœur, s'il y a le moindre élément d'irritation ou de mépris ou de vengeance, en cela, l'Assemblée n'est pas en état d'accomplir l'acte, prendre la décision à la gloire du Seigneur. L'amour ne perd pas les différents mal. Jamais. Parce que l'amour est inséparable de la lumière. L'indifférence à l'égard du mal n'est jamais l'amour. Il se peut que l'amour accomplisse son service à l'égard d'une difficulté, d'une détresse, l'accomplisse devant le Seigneur seul. Et que le Seigneur se réponde à l'activité de cet amour d'une façon efficace. Ce n'est pas toujours le cas. Mais regardons si nous ne trouvons pas beaucoup plus commode de laisser un frère ou une sœur se tirer l'affaire dans une situation. Et on lui dit non, c'est pas l'affaire, et il a voulu marcher dans ce chemin, et ainsi de suite, il en récolte des fruits. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Paul, on pourrait dire, il a engagé une grande partie dans l'histoire de Corinthe. Il a semblé plus grand, une énorme difficulté. Il a, peut-être comme nous par ailleurs, livrer un combat pour le bien de l'Assemblée de Corinthe et le Seigneur, l'ayant conduit à cela, par son moyen, le Seigneur a sauvé cette assemblée qui a fait son rôle. On l'amour ses espoirs vers l'autre pour en recevoir une contrepartie. On ne fait pas cela. Cela peut arriver, mais on ne fait pas pour cela. On a pu dire, chacun a vu cela, de la pauvre cause, à l'égard de quel tabac Emma s'était montré dur et indifférent, s'était écarté. On a pu dire que certainement Paul aurait donné sa vie pour Emma quand même. Voilà le mot. C'est à l'image de celui qui a donné sa vie pour des méchants, qui n'ont été que des méchants. Comme notre égoïsme est mis à nuance là, s'il se donnait une telle.
On a dit tout ce qu'il faut croire.
Mais elle croit tout jusqu'à preuve du contraire. Et très souvent, nous croyons bien des choses sans avoir la certitude que nous devrions exiger.
Le cher papa Rodion disait, comme expérience de sa carrière chrétienne, je parle du père de Samuel, que nous avons bien aimé et connu, il disait, moi, j'en suis arrivé à ne rien croire de ce que j'entends et la moitié de ce que je vois. C'est ainsi ne pas se laisser prendre par des sentiments intérieurs qui sont tout de suite orientés vers la réception d'une mauvaise nouvelle ou d'une déclaration nuisible à d'autres.
L'amour dans l'absolu.
On n'a jamais, dans l'absolu, encore une fois, l'amour sur Dieu n'a jamais une attitude de défiance. Ce qui est cette attitude de défiance, c'est le propre de la nature humaine déchue. Il y a du mal dans son cœur et il est disposé à en supposer les autres dans les motifs qui font sa vie. cœur, versé par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, cet amour ne produit pas la méfiance. C'est pas de méfiance. Tout n'est pas dit à propos de ce qui concerne l'état des salles. Ce qui est dit, c'est le caractère de l'amour divin, chose évidemment toute différente de ce que l'histoire du monde a montré quand l'histoire des hommes a montré. C'est quelque chose de tout différent. Et les chrétiens ont à leur disposition la connaissance de cet amour-là. Un chrétien qui a fait l'amour de Dieu agit, c'est un homme heureux. Il est heureux. Il est satisfait, il est heureux. Et il a ce bonheur qu'il a en Dieu, qui est indépendant des circonstances humaines et des relations humaines, ce bonheur le conduit à s'occuper des autres en lui. Fort pareil. Nous connaissons peu cela, mais c'est bien. Et ça veut dire, en se nourrissant du bien, en vivant dans le bien, c'est ce qui lui permet donc de répandre autour de lui. Il ne soupçonne pas après le réfrage. Mais s'il va se faire cet amour-là, il sera le plus fidèle pour s'en occuper et aller aussi loin qu'il faut que cela. Que les rangs d'un mal. Retenons qu'il y a là cet admirable papier de la vérité que j'ai versé dans mon cœur.
On peut observer que dans ce qui nous est dit ici et qui concerne évidemment les attitudes et les sentiments propres du chrétien individuellement au milieu de l'assemblée sans doute, mais il s'agit de son attitude et des mobiles de son attitude personnelle, nous le trouvons placé en face de choses qui le concernent surtout. Et le mal, ici, c'est proprement le mal dont il aurait à souffrir, dont il a à souffrir, qu'il endure. C'est l'absence, chez lui, de toute réaction égoïste, prenant souci de soi-même, ou de sa réputation, ou de ses intérêts, ou même de son bien-être, vis-à-vis de quelqu'un dont il aurait à plaindre. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître de Pierre, quand il nous est parlé du Seigneur comme supportant les afflictions et souffrant injustement, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, etc. Et je crois que sous cet angle d'âme, nous avons beaucoup à apprendre en méditant ces expressions aussi simple et si grande, si claire, et en considérant encore une fois le Seigneur Jésus dans la perfection de sa marche d'amour, dans l'amour.
Ça ne veut pas dire que l'amour croit tout, il croit les mensonges, il croit les erreurs, certainement. Et il supporte tout, il supporte le mal, il établit le contraire à son. Aimons-nous de l'amour sincère.